أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de degré le plus complet et le plus parfait soit accordé à notre maître Muhammad صلى الله عليه وسلم. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Et bien sûr, toujours il faut avoir la bonne intention pour avoir les récompenses, la bonne intention de chercher l'agrément de Dieu. Donc on avait parlé la semaine dernière sur Hadith al-Jariya. Donc Hadith al-Jariya est très connu. C'est un hadith rapporté avec plusieurs versions que certains sectes, les wahhabites, ils utilisent pour assimiler Dieu à ses créatures. Donc, alors, la règle connue chez les savants sunnites, connue dans la religion, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, que Dieu n'est pas attribué de forme, ni de quantité, ni de localisation. La raison confirme catégoriquement cela. Et que tous les textes, Qur'an ou Hadith, qui est rapporté, ne peuvent pas avoir une explication contraire à la raison. C'est impossible que dans Qur'an, il y ait quelque chose contraire à la raison. Tout ce qui est dans Qur'an, c'est conforme à la raison. L'islam est la seule religion conforme à la raison. Donc les textes, que ce soit du Qur'an ou du Hadith, il y en a qui sont explicites, il y a des Hadiths et des Ayats qui ne sont pas explicites, qu'il faut interpréter. C'est ça la règle générale. Il faut donc interpréter avec un sens qui est accepté selon la raison, qui est valide selon la raison, qui ne contredit pas les autres versets. Donc, tout comme aussi, dans le langage aussi, il faut savoir que dans le langage, c'est connu. Il y a des paroles explicites et des paroles qui ont plusieurs sens. Donc, c'est quelque chose de facile parce que le Coran, il a été révélé, le hadith du prophète, c'était dit à l'époque de gens qui maîtrisaient l'arabe. Donc, c'est important de comprendre ça de manière générale et de montrer aux gens que c'est relativement facile en réalité. Dans le langage en français, on dit « je te donne un coup de main », ça veut dire « aider », « jette un œil », on dit « quelqu'un il a la main mise sur tel secteur ». Ça ne veut pas dire l'organe, c'est un sens figuré. Et donc, on dit, dans les infos, vous entendez dire, Pékin a décrété ceci, cela, Washington, alors que c'est un sens figuré. Et donc, c'est une ville ne parle pas. Mais c'est un sens figuré qui veut dire les gens du pouvoir qui se trouvent à Pékin ou... C'est dit dans le Coran, dans le surat Yusuf, Was'al al-Qaryata. Mutamu, ça veut dire demande au village. Mais ça ne veut pas dire le village ne parle pas, ça veut dire demande aux gens du village. Donc c'est connu. Donc il est censé que c'est des sens, donc il faut les interpréter correctement. Donc eux, les Wahhabis, donc ils prennent, parce qu'ils ont une mauvaise croyance, donc ils prennent ces textes-là, ils leur donnent un sens qui n'est pas digne de Dieu. Donc c'est ça la règle. Parce que la personne, même si elle est ignorante, même si elle est tombée sur des hadiths comme ça, elle n'a pas d'excuse si elle croit que Dieu habite le ciel ou des choses comme ça, parce que c'est contraire à la raison. Celui qui habite le ciel, il a une quantité, une localisation. Et celui qui est ainsi, c'est une créature. Donc, il y a des versets, des hadiths qu'il faut interpréter selon ce qui est digne de Dieu. Notamment, on a vu le hadith al-Jariya, donc ça ne veut pas dire que Dieu habite le ciel, mais ça, la construction en arabe, qui est citée, qui est confirmée par certains savants, et interprétée, « Fissama » veut dire « Quelle est ta croyance au sujet de Dieu ?» Quand il est cité le terme « Aïna ». Et quand elle dit « Fissama », ça veut dire « L'imminence de Dieu ». Donc, quand on dit même dans le langage, on dit, je ne sais pas, le président, il est au-dessus du simple qui travaille à l'administration. Ça ne veut pas dire qu'il habite forcément plus haut que lui. Ça veut dire dans le grade. Donc, fils Sama, quand elle est employée ici, ça veut dire l'éminence de Dieu. Et on a vu, Amin Tumman Fis Sama, ça veut dire les anges, dans Surat al-Mulk. Dans Surat al-Mulk. Ça ne veut pas dire Dieu habite le ciel. Donc, des fois, ça vise les anges de Dieu. Des fois, ça vise, les savants ils disent la souveraineté de Dieu. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ici, ça veut dire que Dieu a la divinité dans les cieux et dans la terre. Et donc, voilà, des fois ça vise les anges envoyés de Dieu. Et des fois, ça vise la miséricorde de Dieu. Comme on dit, le roi, il a construit la ville. Ou le roi, il attaque telle ville. Ça veut dire, le roi, il a construit la ville. Ça veut dire, les travailleurs du roi. Et le roi, il a attaqué telle ville. Ça veut dire, l'armée du roi. Même maintenant, on dit souvent Paris contre Marseille. Ça ne veut pas dire la ville de Paris, elle est réellement contre Marseille. C'est des villes, ils ne bougent pas. Ça veut dire l'équipe de Paris contre l'équipe de Marseille. Ça a été omis. Donc c'est quelque chose de connu en fait. Ça montre comment ils sont ignorants, ils sont bêtes et que c'est en réalité, comme les savants disent, en réalité parce qu'ils ont une mauvaise croyance. C'est pour ça qu'ils disent ces égarements-là. Sinon c'est facile en fait. C'est employé le sens figuré tous les jours, l'emploi. Alors, donc on a cité plusieurs exemples de hadith et on a expliqué. Donc, et par ailleurs, on a montré à la fin le hadith ma fi as-samawati mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw rak'un aw sajid. C'est-à-dire, il n'y a pas dans les cieux un espace de quatre doigts qui ne soit occupé par un ange debout ou en inclination ou en prosternation. C'est-à-dire, les cieux sont remplis d'anges. Donc, c'est aberrant de dire que Dieu habite le ciel. Vraiment, c'est vraiment contraire à la raison. Ici, c'est plusieurs preuves pour montrer que c'est stupidement. C'est stupide sur stupidité sur stupidité. Donc, les cieux sont remplis d'anges. Donc, Dieu, donc, il n'est pas concerné par le fait de bousculer les anges. Ni d'être localisé. Maintenant, ici, tu as un autre hadith parmi les hadiths qu'il faut interpréter. De même, le hadith qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim de Abu Sa'id Al-Khudri que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'i ya'tini khabaru man fis sama'i sabahan wa masa'a. Donc, ce qui signifie Ayez foi en ce que je dis. Donc le prophète dit ce qui signifie ayant foi en ce que je dis, ceux qui sont au ciel croient en mon honnêteté et en ma véracité dans la transmission de la révélation. Les nouvelles de ceux qui sont au ciel me parviennent matin et soir. Ici aussi, man fis sama vise les anges, ne vise pas que Dieu habiterait le ciel. Et donc, voilà, eux, souvent, ils s'attachent à ça pour contredire la raison. Donc, ils n'ont pas d'excuses, parce que dans l'islam, on sait bien, quand tu as la raison, tu es responsable. Si tu n'as pas la raison, tu vas au paradis. C'est quelqu'un qui est fou toute sa vie. Mais tu as la raison et tu crois une croyance contraire à la raison, tu n'as pas d'excuses. Donc, ce qui sont visés ici, ce sont également les anges. Et celui qui est visé par Man fis sama, et donc, et si Man fis sama viserait Dieu, ça serait aussi pour montrer l'éminence. Celui qui est plus puissant que tout autre, il sait plus que tout autre. Donc, comme même les gens dans la hiérarchie ou une organisation quelconque, que ce soit gouvernemental ou une entreprise, les gens ils disent Voilà, le un tel, PDG ou autre, ils disent, lui, il est au-dessus de la pyramide. Ça ne veut pas dire que vraiment, il y a une pyramide qui est au-dessus. Ça veut dire, dans la hiérarchie, il est en haut. C'est ça que ça veut dire. Donc, Manfissama, des fois, c'est utilisé pour dire que Dieu est imminent. Celui qui est le, qui sait le plus que tout autre, celui qui est le plus puissant que tout autre, c'est ça. Donc voilà ce qu'il visait. Ou ça vise les anges, ou ça vise que Dieu, il a le plus d'éminence que tout autre. De même, là, il cite d'autres hadiths. Donc après qu'il a cité plein d'explications, il cite d'autres hadiths qui nécessitent une interprétation. Quant au hadith de Zayn bint Toudjahch, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle elle disait Zawaja kunna ahli kunna wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Donc, qui signifie, donc ce hadith-là, il vise quoi? Il signifie Ô femmes, ce sont vos familles qui vous ont mariées, alors que moi, c'est Allah qui m'a marié. Mon mariage était inscrit au-dessus de sept cieux. C'est-à-dire que le mariage du prophète avec elle est inscrit dans la table préservée. Cette inscription est spécifique à Zaynab. Elle n'est pas générale. L'inscription générale concerne tout un chacun, de sorte que tout mariage qui doit avoir lieu jusqu'à la fin du monde est effectivement inscrit. La table, quant à elle, est effectivement au-dessus de sept cieux. Ici, il ne veut pas dire que Dieu est au-dessus de sept cieux, qui m'a marié, comme pourrait le comprendre, malheureusement. À nos jours, les gens ils battent les traductions pour vendre des livres, pour, etc., pour l'argent. Donc ici, ça veut dire qu'elle parle, il y a là un mariage spécial que Dieu a décrété, qui est cité dans le Coran, parce que Zaynab, c'est cité dans le Coran quand elle était mariée avec quelqu'un, et puis ils sont séparés, et Dieu a décrété que ce sera la femme du prophète. En fait, c'était pour une raison spécifique, parce que donc c'était en fait elle était mariée à quelqu'un que le prophète, avant de recevoir la révélation, il considérait comme son fils. Il était comme adopté. Et Dieu a décrété, c'est pas valable d'adopter dans le sens que de le considérer vraiment son fils, pas d'aider. Aider, élever quelqu'un, c'est accepter. Mais il ne deviendra pas ton fils. Le prophète, il avait considéré, l'a adopté, mais avant de recevoir les révélations. Après, Dieu a décrété que non. Et pour montrer que c'est annulé, enfin, ce jugement n'est pas valide dans l'islam, Dieu a fait que la femme qui était mariée à celui qui considérait avant comme son fils, donc que les gens étaient au courant. Il appelait le fils de Mohammed adoptif, Yann. Dieu a fait que elle s'est disputée avec son mari, ils ne se sont pas entendus, puis donc elle s'est mariée avec le prophète. Pour montrer que ça instaure aucun jugement adopté. Parce que les gens le considèrent comme vrai fils au final, alors que non. Parce que si c'était vraiment son fils, il ne peut pas se marier avec la femme de son fils. Pour montrer que ce n'est pas valable, ça ne compte pas ni dans l'héritage ni dans le mariage, Dieu a fait dans le Coran que c'est cité que elle sera la femme du prophète et elle s'est mariée avec le prophète en fait par un décret divin. Et donc c'est ça que ça vise le hadith en fait, que c'est un mariage spécial qui est décrété, qui est cité dans la table préservée. Sinon, tout ce qui arrive, tous les mariages en général, tout ce qui se passe dans le monde, c'est écrit dans la table préservée. Donc, voilà, ces textes-là du hadith, il y a des expressions équivoques dedans, en arabe. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bien sûr, les grands savants, les vrais savants de l'islam, ils leur donnent un sens qui est digne de Dieu, parce qu'ils ont une règle de base. Et Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Tout ce qui a une forme et une quantité a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Alors que les gens extrémistes, ils ne considèrent pas les règles rationnelles. Il y a un autre hadith aussi. Donc là, c'est le chapitre vraiment ici de certains hadiths pour montrer aux gens attention et pour répliquer. Quant au hadith dans lequel il y a والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. Ce hadith aussi concerne les anges. Là aussi, le hadith il parle que, yani, que celle qui se refuse à son mari, sans excuse, les anges la maudissent. Voilà. Parce qu'il y a une autre version, parce que ce hadith-là, il dit Alladhi fi s-sama, et il dit La'anat al-mala'ikatu hatta tusbih, que les anges la maudissent jusqu'au ce qui parvient au matin. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Quoi qu'il y ait de nombreux hadiths non explicites, donc la preuve rationnelle, c'est au-dessus. Parce que les hadiths, c'est une transmission. Et la preuve rationnelle, c'est plus fort. Le hadith, c'est une transmission. C'est-à-dire, dans quel sens c'est plus fort? C'est que ça ne peut pas contredire la raison. C'est une règle chez les savants du hadith que, c'est-à-dire que si un hadith est rapporté, s'il a un sens apparent qui contredit la raison, il est nécessairement interprété. Si il a un sens qui contredit la raison, il ne peut pas être interprété, il est directement réfuté. Ça ne peut pas être un hadith sahih confirmé et en même temps il contredit la raison et qu'il ne peut pas être interprété. Ça n'existe pas. Ce cas-là ne peut pas avoir lieu. Parce que si c'est confirmé vraiment du prophète, il ne peut pas contredire la raison. Donc le prophète ne contredit pas la raison. Donc ça c'est important. Et le Coran ne contredit pas la raison. Dire que le Coran contredit la raison, c'est de la mécréance. C'est pour cela que les savants, ils expliquaient les détails de la raison. Et des gens, ils n'apprennent pas, ils vont apprendre, il y a des gens, c'est arrivé dans le passé très fort dans la jurisprudence, mais ils ont contredit la raison, ils sont devenus des mécréants. C'est arrivé même à Cordoue, il y a une histoire très connue. Donc de quelqu'un très connu aussi qui l'a contredit la raison, il s'est égaré et s'est égaré, les musulmans l'ont déclaré mécréant alors qu'il était fort dans la jurisprudence. C'est pour ça que les règles rationnelles sont importantes. Le jugement rationnel, l'obligatoire, l'impossible, le possible. Tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Et on a dit même la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Ne concerne pas l'impossible ni l'obligatoire. L'impossible n'admet pas la confirmation. Un objet ne peut pas être en mouvement et immobile à la fois, c'est de l'absurde. Quelqu'un ne peut pas être mort et vivant à la fois. Celui qui est quelque part dans une direction, c'est forcément une créature. Il ne peut pas être le créateur et ayant besoin. Ça ne peut pas avoir lieu. Il ne peut pas être créature et créateur. C'est impossible. Donc le créateur, forcément, il n'a pas besoin, il n'a pas de début. Toutes les créatures ont donc forcément besoin de lui. Il est tout puissant sur toute chose, etc. Il sait toute chose, il est vivant et il n'a aucune ressemblance aux créatures. De même, quant au hadith de Abu Darda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Rabbana alladhi fis sama'i taqaddas ismuka. Donc, il n'est pas fort, il n'est pas sahih, mais il est faible, daïf. Comme l'a jugé Ibn al-Jawzi. Donc, c'est un hadith qui n'est pas sahih. Ici, il avait été jugé fort. Ici, il aurait été confirmé. Il aurait serait interprété selon un sens qui vient de Dieu. Comme le hadith de Al-Jariya, hadith de la femme esclave. Quant au hadith du Jubayr ibn Mut'im, que le prophète aurait dit إن الله على عرش فوق سماواته وسماوات فوق أراضيه مثل القبة. البخاري ne l'a pas jugé fort. Il ne peut pas constituer un argument hujja. Il ne peut pas être un argument dans la croyance. Donc bien sûr, il ne faut pas retenir le sens apparent. Il y a d'autre part dans sa chaîne de transmission quelqu'un qui est faible. Voilà, c'est les savants du hadith qui parlent des hadiths. Ce n'est pas simplement un simple quelqu'un qui lit tout seul les livres comme ils font les wahhabis, ils lisent les livres à droite, à gauche. Par conséquent, sa transmission donc, ne peut pas être un argument. Ibn al-Jawzi l'a mentionné cela ainsi que d'autres. Ibn al-Jawzi, il est très connu, c'est un hanbalite. Il a écrit un livre Daf'u Shubah al-Tashbih Akufi Tanzih. Il réplique au Mushabbiha avec plusieurs arguments. Il était très fort dans l'exhortation, dans ses exhortations, dans ses grands prêches. Beaucoup de gens se convertissaient par grands groupes. Il était tellement fort dans l'exhortation. Et d'ailleurs, lui, parmi ce qu'il cite, il dit, regardez, en fait, ce n'était pas les Wahhabis à son époque, parce que c'était d'autres assimilateurs. Ils avaient d'autres noms, en fait. Les assimilateurs existaient. Wahhabis, c'est vrai, existent il y a 250 ans, mais leurs idées, leur mouvance, leur idéologie de l'assimilation, elle existe, avec d'autres noms. Il a dit, regarde, ces gens-là, ils prennent comme preuve Pharaon. C'est-à-dire que c'est stupide, ils disent regardez Pharaon, parce que dans le Coran il citait Pharaon, il dit à son ministre Haman, construis-moi une tour, je vais monter dessus, je vais voir les cieux pour voir le dieu de Moussa. Et dans le sud du verset, Dieu nous dit وَكَذَيْكَ صُدَّ زُيِّنَا لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. C'est-à-dire Dieu dit qu'il est égaré du chemin. Donc Ibn al-Jawzi il dit regardez, Dieu nous dit que celui qui a la croyance de Pharaon, il est égaré. Donc, croire que Dieu est localisé, c'est la croyance de Pharaon et ses frères mécréants, il dit. Et il se base sur ça. Il se base même sur n'importe quoi. Donc, voilà ces gens-là égarés, vraiment très dangereux, qui égarent les gens. De même pour ce qui a rapporté, Al-Bukhari dans son livre Khalqu Af'al al-Ibad, d'après Ibn Abbas qui l'aurait dit. Lamma kallama Allah Musa kana nida'u fi as-sama' wa kana Allah fi as-sama'. Ce hadith n'est pas confirmé. Et donc il ne peut pas être pris comme preuve. De même, il n'est pas confirmé ce hadith-là. Donc, ce n'est pas parce que le Bukhari l'a cité. Des fois, les savants, ils citent. Il faut savoir une chose. La religion, ce n'est pas juste de lire des livres. Nawawi, il a été cité vers la fin de sa vie. Il a demandé qu'on lave beaucoup de ses livres. Parce qu'avant, l'encre, bien sûr, dans l'islam, on ne jette pas les livres de religion. Donc, il les lavait. Au lieu de les brûler, l'encre, elle partait. C'est comme ça qu'il mettait dans l'eau. Parce qu'il s'est dit, certains de ses livres, il ne s'est pas concentré comme il faut. Parce que quand on écrit beaucoup, ça nous arrive, mais nous aussi, des fois on écrit, tu reviens à la maison, tu dis, ah, j'écris ça. T'as un lapsus, des fois. Lapsus d'écriture, on va dire. Donc les savants, ça arrive, c'est pas des prophètes, ils reçoivent la révélation. Le prophète, il dit, chacun on prend sa parole, on délaisse, ça fait le prophète. Alors, Omar est plus fort que le Bukhari, il s'est trompé. Et donc, les savants, des fois, ils écrivent, et il veut répliquer et puis il oublie. Ça arrive, tu fais une chose, t'arrives. Quand on envoie un message à quelqu'un, on l'écrit, après quelqu'un nous a parlé, ah, on voit demain, ah, je t'ai pas envoyé le message, il était déjà écrit mais je l'ai pas envoyé. Donc ça arrive, vous savez. Donc c'est pas. Donc c'est des humains, ça arrive, ils écrivent. Et donc il veut répliquer et des fois il oublie, tellement il écrit. Il lui est arrivé quelque chose, après il a continué. Et donc, voilà. Donc ça, ces hadiths, ce n'est pas confirmé. Mais la règle, toujours, aucun hadith, aucun verset ne peut contredire la raison. C'est ça la règle. Et quelqu'un qui croit le contraire, il n'est pas musulman. C'est-à-dire, si quelqu'un Il a lu un verset en hadith, il s'est égaré, il n'a pas d'excuse. Parce que Dieu lui a donné la raison. Dieu t'a donné la raison, tu crois le contraire de la raison, tu n'as pas d'excuse. Donc il y a des gens, malheureusement, ils tombent dans ça. On leur dit, si quelqu'un il vient, il te dit, il y a un hadith qui dit 2 plus 2 est égal à 5. Tu vas croire, tu vas chercher, tu n'as pas besoin de chercher, tu sais que c'est complètement faux. Pourquoi? Tu sais que ça contredit la raison. Et tu sais, donc le prophète ne dit pas une chose contraire à la raison. Tu n'as pas besoin de chercher. Tu ne vas pas douter. Pareil, c'est quelqu'un qui a plein de hadiths qui a un sens apparent qui attribuerait dans lequel laisserait croire que Dieu serait localisé. T'as pas besoin de douter, t'as pas besoin de. Donc, voilà, de chercher pour douter, non. Tu sais tout de suite, ça ne peut pas avoir lieu et que nécessairement il faut qu'il soit interprété ou sinon il est pas confirmé. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de paniquer. Parce qu'il y en a, il s'égare sur ça. Il connaît Hadith, tout ça. Puis il vient, il va douter sur ce sujet-là. Ça, il n'y a pas d'excuse. Ça, c'est catégorique. Celui qui est localisé, c'est une créature. Donc celui qui doute, il n'est pas musulman. Donc les savants, ils montrent, des fois c'est un hadith faible, et des fois, ils montrent que ce hadith-là, donc si on confirme, il est interprété, selon ce qui est digne de Dieu. Donc il ne peut pas avoir un sens qui n'est pas digne de Dieu. Et il faut citer aussi, parmi les preuves que la personne peut citer, c'est le hadith très connu, confirmé où le prophète indique que Allah Ta'ala dit Maridtu ibn Adam falam ta'udni. Maridtu ibn Adam, c'est-à-dire il dit que Dieu il dit Maridtu. Maridtu mot à mot, littéralement ça veut dire je suis tombé malade. Le prophète il dit que Dieu il dit Maridtu. Et après il explique dans le hadith, Dieu explique que Maridtu ça veut dire mon esclave est tombé malade. Ça c'est un hadith rapporté par Muslim. Dans le hadith même, il y a l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? La première partie, ça veut dire, je suis tombé, ça veut dire, mon esclave est tombé malade. Ça veut dire, ça vise l'esclave, et donc ils sont avec un sens figuré, avec une omission. On va dire à ces gens-là, est-ce qu'on prend, selon votre règle, si on prend au sens apparent, est-ce que tu vas dire que Dieu tombe malade? Parce qu'ils te disent, non, 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 t'as vu? Cite mot par mot, soi-disant, mais l'expression tu la prends mot à mot, c'est pas la même quand tu prends tout. Jette un œil, c'est l'expression, tu prends les parties à part, et donc ça veut dire autre chose, mais si tu prends toute l'expression, ça veut dire autre chose. Donc, marithu, ça veut dire mon esclave est tombé malade. Alors, le premier sens de marithu, c'est je suis tombé malade. Est-ce qu'on ne va pas dire Dieu est tombé malade? Après, dans le hadith, il dit, en fait, le hadith, il est long. Il est cité cette expression. Après, dans le hadith, il y a l'explication. Dieu explique que mon esclave est tombé malade. Donc ça coupe court à la discussion. Tu dis, si tu vas me citer plusieurs hadiths, ben voilà ce hadith-là, qu'est-ce que tu vas dire ce hadith-là? C'est-à-dire, si on suit ta règle, sa règle de s'égarer là, tu prends tout au premier sens, tu vas tomber dans l'égarement. La voie sunnite, elle est la voie correcte. C'est la voie du juste milieu, la voie sunnite. C'est pas tout le temps on interprète, comme disent les sectes mu'tazilites, et là il interprète tout. C'est pas on délaisse l'interprétation. Donc, c'est quoi la règle chez les sunnites? Il faut la connaître. On interprète quand il est nécessaire d'interpréter. Quand il y a une preuve rationnelle ou une preuve textuelle confirmée. C'est ça. On interprète quand il faut interpréter, tout simplement. Donc, on ne va pas interpréter ce qui est clair. Mais ce qui nécessite interprétation, quand il y a une preuve rationnelle qui montre qu'il faut interpréter, ou une preuve textuelle qui montre qu'il faut interpréter. Donc, voilà la règle sunnite. Si on interprète selon... est-ce qu'il y a une preuve rationnelle catégorique qu'il faut interpréter ou une preuve donc rationnelle catégorique ou une preuve confirmée selon les textes. C'est là la règle. Sinon, on prend le sens apparent. Et donc, comme la preuve rationnelle catégorique que le créateur n'est pas concerné par l'espace, le temps, la direction, le changement, les organes, et la preuve textuelle, il y a deux preuves là, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, il n'a pas d'équivalent, confirme catégoriquement que le créateur n'est pas concerné par les attributs des créatures. Donc, nécessairement, on va interpréter. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, comme on a dit, quelqu'un, quiconque attribue, comme il a dit l'imam Tahawi, « وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ » Et quiconque attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Donc, attribuer à Dieu les attributs des créatures, c'est de la mécréance. Donc ça, c'est unanime, comme il dit l'imam Mayara, dans son explication de Al-Murshid al-Mu'in, le traité dans le fiqh maliki et la croyance. Il dit « Ajma' ahlul haqq qatibatan ala anna Allah ta'ala la jihata lahu fala fawqa wa la tahta wa la yamina wa la shimala wa la amama wa la khalf. » Les gens de la vérité sont unanimes que Dieu n'a pas de direction ni de haut, ni de bas, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Donc Dieu n'est pas concerné par cela. Donc le sujet ici, donc il est fini, donc sur sur le sujet de la hadith al-jari en fait et quelques hadiths non explicites. Donc les savants ou ils confirment, certains ils l'interprètent, ou ils montrent que c'est pas confirmé avec des règles, avec des chaînes de transmission. Donc les 13 attributs de Allah. Donc les 13 attributs. Il a été de l'habitude des savants, compositeurs d'ouvrages sur la science, de la croyance, parmi les plus récents d'entre eux, de dire le devoir personnel rendu obligatoire pour chaque personne responsable, c'est-à-dire pubère et saint d'esprit, c'est de connaître parmi les attributs de Allah 13 attributs. De connaître ici, de connaître leur signification et pas forcément apprendre par cœur. L'existence, l'exemption de début, la non-ressemblance avec ce qui entre en existence, l'unicité, le non-besoin, l'exemption de fin, la puissance, la volonté, la vie, la science, la parole, l'ouïe et la vue. D'autre part, il lui est un devoir de savoir que ce qui contredit ces attributs sont impossibles s'agissant de Allah. Donc, c'est des attributs cités plusieurs fois dans le Coran, dans le Hadith, et obligatoire rationnellement s'agissant de Dieu. Étant donné que ces attributs ont été mentionnés de nombreuses fois dans les textes de loi de l'islam, les savants ont dit qu'il est un devoir de les connaître, par devoir personnel. Certains autres savants ont déclaré qu'il est un devoir de connaître 20 attributs. Ils ont ainsi exigé la connaissance supplémentaire de 7 attributs de fait. Ils ont dit le fait qu'il est Ta'ala puissant, qu'il veut, qu'il est vivant, qu'il sait, qu'il parle, qu'il entend, qu'il voit. La première voie est jugée plus argumentée, car on a su de la confirmation de la puissance su de Allah le fait qu'il est puissant, et de même pour le reste. Donc vous savez, là, il y a les grandes écoles dans la croyance. Il y a les grandes écoles dans la jurisprudence, vous savez, Shafi'ite, Hanafite, Malikite. Il y a deux grandes écoles dans la croyance. Tout comme les grandes écoles dans la jurisprudence, ils n'ont pas inventé une jurisprudence comme ça, mais c'est basé sur le Coran et le Hadith. Et les écoles dans la croyance, c'est la croyance du prophète, comment elle est argumentée avec telle preuve, telle manière, etc. Les grandes écoles, c'est Ash'arite, Maturidite. Ash'arite, c'est plus chez les Arabes. Et donc plus parce que Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est un savant arabe, et Abu Ansur al-Maturidi, c'est les savants de l'origine perse, en fait, et tout ça, sur ces régions-là. Ou ces régions, en fait, donc où il y avait le Bukhara, tout ça, en fait, on va dire. Et donc, voilà, ces deux écoles-là, ils expliquent la même croyance, mais avec quelques petites divergences. Comme là, ils ont dit, en plus des 13 attributs, ils disent le fait qu'il est Ta'ala puissant, et qu'il veut, et qu'il est vivant. Et ils font une nuance. Il a l'attribut de puissance, et qu'il est tout puissant. Alors, la voix, il dit, le chef, que la première voix, elle est plus argumentée, parce que quand on dit Dieu, il a attribué la puissance, donc il est tout puissant. Donc ça suffit, c'est suffisant. Donc tous les attributs de Dieu ne changent pas, n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Et donc, les savants, ils ont même ces attributs divisés. Donc, il y a les attributs qu'on dit as-salbiyya, qui nie au sujet de Dieu ce qui n'est pas digne de lui. L'unicité, l'exemption de fin, le long besoin, la non-ressemblance avec les créatures, ils ont aussi ça, c'est des attributs salbi, c'est-à-dire ça nie au sujet de Dieu ce qui n'est pas digne de lui. Donc, et il y en a, ils ont dit, il y a ce qu'on appelle les attributs, ma'ani, les attributs de ma'ani, de sens. Donc, c'est les attributs qui sont sept, la vie, al-hayat, al-qudra, la volonté, la vue, donc l'ouïe, la science, la parole, et l'exemption de faim. L'exemption, enfin, al-baqa. Al-baqa, on va dire. Et certains, ils ont dit, al-baqa, c'est juste un attribut salbi, c'est-à-dire qu'il nie au sujet de Dieu la faim, l'exemption de faim. Donc là, il y a des divergences dans quelle catégorie qu'ils l'ont mis, en fait. Et donc, il y a des détails là-dessus, en fait. Ça demande de revoir, en fait. Il y en a, ils ont dit, il y a les sept attributs, en fait, qui sont la vie, l'ouïe, la vue, la parole, la puissance, la volonté, la science. Donc, ils ont dit, c'est fait ma'ani, en fait, en arabe. Donc, c'est des attributs de Dieu, donc, voilà, qu'il appelle ma'ani. Après, bon, en français, il faut savoir comment après dire exactement. Mais c'est des attributs de Dieu, bien sûr, confirmé pour Dieu. Ils ont dit à la tribu de l'existence, l'ont classé à part. En fait, c'est pour dire que Dieu existe, ils ont dit. Dieu existe. Et ils ont dit les autres attributs, c'est nie tout simplement ce qui n'est pas digne de Dieu. L'exemption de début, ça nie le début. La non-ressemblance, ça nie la ressemblance. Le non-besoin, ça nie. L'unicité, ça nie l'associé, tout simplement. Donc ça, ils l'enseignent. Hein. Dans les écoles musulmanes, vous pouvez tomber des gens qui ont étudié dans les pays musulmans, ils te disent, ouais, c'est Fatul Ma'ani, etc. Parce qu'il y a beaucoup de traités qui parlent de ça, traités de la province. Donc, voilà. Donc, les attributs de Dieu, de toute façon, ils n'ont pas de début, n'ont pas de fin et ils ne changent pas. Donc, comme on l'a dit, il y a l'attribut de l'existence, on va répéter, l'attribut de l'existence. Il le classe à part, donc, ça montre que Dieu existe, en fait, tout simplement. Et ils ont cité les attributs qui nient ceux de Dieu à part. Ils ont appelé salbiya, ça veut dire ce qui nie ce qui est au Dieu, c'est au sujet de Dieu, ce qui n'est pas nié lui. L'exemption des débuts, le non-besoin, la non-ressemblance aux créatures et l'unicité. Le baqa, beaucoup de savants l'ont dit, ça veut dire ça nie au sujet de Dieu. Enfin, c'est cette catégorie-là qui est salbiya, qu'on dit qui nie. Selb en arabe c'est enlever, c'est-à-dire ça nie au sujet de Dieu ce qui n'est pas digne de lui. Et Abul Hassan al-Ash'ari, il a cité parmi Sifat al-Ma'an. Donc il y a, enfin c'est cité dans un traité très connu enseigné dans les pays musulmans. C'était enseigné dans le Maghreb et c'est à Sanoussi, Umm al-Barahi. Il cite cela. Donc, même à Sanoussi. Jusqu'à maintenant, il l'enseigne, ce traité-là. Tu trouves des gens au Somal, au Soudan, ils connaissent ces détails-là, en fait. Donc, dans cette phase, c'est important de connaître. Tu peux tomber, les gens, ils te racontent, et puis toi, tu ne connais pas, tu connais 13 attributs, tu t'arrêtes à là. Mais il y a des détails en fait. Ils ont donné des catégories aux 13 attributs. L'existence, ils l'ont mis à part. Ça montre que Dieu existe, tout simplement. Et les attributs qui nient, en fait, ce qui n'est pas nié de lui. L'exemption de début, le non-besoin à la non-ressemblance aux créatures, l'unicité, ça nie. Et les autres, ils ont dit, c'est des attributs qui, vraiment, qu'on dit, qui existent réellement, qui peuvent être vus si Dieu lève le voile de l'être humain. D'accord? Donc, pour ça, la science, il y a des détails. Tu apprends un minimum, mais il y a des détails, à chaque fois. C'est pour ça que c'est important de persévérer, de répéter. Les savants, un livre, ils le prennent 100 fois, 15 fois, 10 fois, même un livre de grammaire, ils le prennent plusieurs fois. L'islam enseigne ça, de répéter. Et c'est dans le Coran, Rabbi zidni ilma. Donc vous voyez, donc il y a des détails importants. Donc il faut persévérer sur les cours. Donc il y a des détails aussi. Donc ça, une autre fois, on verra un peu ce que disent les Maturidi, les Ash'ari. Mais tous sont unanimes sur le fait que Dieu, l'être de Dieu, il ne change pas. Les attributs propres à Dieu ne changent pas. Dieu ne dépend pas du temps, etc. Ça, c'est unanime. Il y a des petites manières d'expliquer certains détails, ça peut différer. Donc, est-ce que c'est clair ce qu'on a dit? C'est clair? Donc, j'ai répété comme ça. Donc, il y a, on a dit, les sept attributs qui citent, qu'on a dit, Al-Ma'ani, il l'appelle en arabe. La vie, la puissance, la volonté, l'ouïe, la vue, la science, la parole. Abul Hassan Ash'ari, il a rajouté à cela Al-Baqa, qu'on pourrait traduire la non-fin, mais lui, il l'a cité avec cette catégorie, mais beaucoup d'autres savants, ils l'ont cité tout simplement dans la catégorie de ce qui nie au sujet de Dieu, à savoir l'exemption de faim, le non-besoin, la non-ressemblance aux créatures et l'unicité. C'est clair? Donc, bien sûr, attribuer à Dieu le changement, l'entrée en existence, des choses comme ça, c'est une mécréance. Donc, faire attention, les savants ne divergent pas, que celui qui attribue à Dieu le corps ou l'entrée en existence, c'est la mécréance. Donc, des divergences, des explications sur des petites nuances, vous voyez, qui ne contredisent pas la croyance. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, donc retenez ça. Donc, retenez ça bien. Donc, c'est bien de retenir. Et comme ça, la prochaine fois, on verra un peu plus de détails. Inch'Allah. C'est clair. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين